Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 4. Nous allons lire les versets 13 à 17. Romains chapitre 4, à partir du verset 13. Voici donc la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous reprenons donc notre série sur cette lettre de Paul aux Romains. Et nous avons vu que Paul nous a amenés au cœur de l'Évangile au chapitre 3. Et il nous a montré comment la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. Christ est venu pour faire la propitiation pour nos péchés. Il a satisfait, d'une part, les demandes de la loi. Il a obtenu une justice parfaite par son obéissance, cette justice qu'il donne à tous ceux qui croient en lui. Mais il a aussi pris sur lui les péchés de ceux qui croient en lui, les péchés de son peuple, pour subir la condamnation à leur place. En faisant cela, il satisfait la justice. Dieu condamne les péchés de son peuple, de ceux qui croient en Christ, il les condamne dans son Fils, dans celui qui est notre substitut. Et de ce fait, sa justice est satisfaite. Dieu a condamné le péché en Christ. Et il peut accueillir tous ceux qui croient, tous ceux qui sont unis au substitut, tous ceux qui sont cachés derrière le substitut. Il les accueille dans sa présence. C'est le cœur de l'Évangile, c'est le message de toute la parole de Dieu. C'est ce que Paul appelle la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, que du juif, mais aussi du non-juif, du grec. Mais Paul sait, et nous aussi nous le savons, que beaucoup de personnes s'opposent à cet Évangile. C'est une opposition qui est réelle. Paul lui-même le sait, puisque lui-même a été dans le camp opposé. Il s'est opposé à ce message. Il a été dans les synagogues, il a sans doute entendu les premiers chrétiens à Jérusalem, et sans aucun doute, il a entendu Étienne qui discutait, nous le disons en Actes chapitre 6, qui discutait avec les Juifs de Cilicie, dont la capitale est Tars, d'où venait Saul, devenu l'apôtre Paul. Et Paul n'avait pas cette paix avec Dieu qu'Étienne avait. Et jusqu'à ce que Dieu l'arrête, le Seigneur Jésus-Christ l'arrête sur le chemin de Damas. Paul connaissait les objections de l'Évangile, puisque lui-même a été dans le camp des objecteurs. Et on peut imaginer Paul en train de sourire en écrivant cette lettre, parce qu'il voit toutes ces objections, il les connaît. Ses objections à l'Évangile, ses objections à la prédication de l'Évangile. Mais Paul s'en remet à l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui convainc même le plus dur des cœurs. Aucun argument n'est plus trop dur pour l'Esprit de Dieu lorsqu'il agit par grâce dans le cœur d'un homme pécheur. Paul sait qu'il y a cette opposition directe, mais il sait aussi qu'il s'adresse à cette église de Rome, et où il y a des chrétiens qui n'ont pas saisi toute la liberté qu'apporte l'Évangile. Des chrétiens d'origine juive qui sont convaincus que si quelqu'un veut suivre le Messie, si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, il doit être circoncis. Il doit obéir à la loi de Moïse. Il doit suivre la tradition. Et on retrouve ces choses dans d'autres lettres, dans sa lettre aux Galates, par exemple, ou dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3. Et on verra plus tard, dans cette lettre aux Romains, qu'il y a eu des tensions dans cette église à Rome, déjà au 1er siècle, entre les croyants d'origine juive et les croyants d'origine non-juive. Alors, quand Paul parle d'Abraham, il ne s'attaque pas seulement à l'opposition directe de la part des Juifs, qui mettaient l'accent sur le signe de la circoncision, au lieu de regarder dans la direction dans laquelle pointait le signe, c'est-à-dire vers la promesse de Dieu faite à Abraham. Mais il s'adresse donc aussi aux croyants qui n'ont pas saisi toute la plénitude de la liberté, toute la liberté qu'apporte l'évangile de Jésus-Christ. L'Évangile apporte un bouleversement. C'est un challenge pour toute personne, et notamment pour les contemporains de l'apôtre Paul. On l'a vu à la fin du chapitre 3, où Paul discute avec ces personnes. « Paul, est-ce que tu veux vraiment dire que nous, les Juifs, après toutes les bénédictions que nous avons reçues, nous ne pouvons nous glorifier en rien ?» En tant que juif, par quelle loi est-ce que tu peux dire cela? Paul, est-ce que tu dis réellement que Dieu est à la fois le Dieu des juifs et aussi le Dieu des non-juifs de la même manière? Est-ce que tu ne remets pas en question tous les privilèges que nous, juifs, nous avons reçus, et notamment le plus grand des privilèges que nous sommes les détenteurs de la parole, de la Torah, de la parole que Dieu nous a donnée? Nous sommes le peuple de la loi, nous sommes le peuple du livre. Aucune autre nation n'a reçu cette révélation. Est-ce que, Paul, tu ne balayes pas tout ça? Nous avons vu que Paul, à la fin du chapitre 3, a donné des réponses très simples, très courtes. Et nous avons dit que Paul, aurait, une fois qu'il a donné ses réponses, il aurait très bien pu passer au chapitre 5 et se réjouir du fruit de la justification, de la paix avec Dieu, de la réconciliation avec Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas aux réponses courtes. Il passe tout ce chapitre 4 à développer ses réponses comme un pasteur qui va prendre le temps d'expliquer. Et Paul rentre dans le camp des opposants. Et c'est comme s'il criait, est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham par ici, au milieu de nous? Et bien entendu, il y a des enfants d'Abraham, ou du moins certains le pensaient, parce qu'ils étaient circoncis. Et Paul dit, eh bien, parlons d'Abraham. Parlons d'Abraham. Et il examine donc quatre objections qui ont été émises contre l'offre gratuite de l'Évangile. Et Paul va montrer que tout ce qu'il a proclamé au sujet de l'Évangile de Jésus-Christ est en accord avec tout ce que le dit la Bible au sujet d'Abraham, au sujet de la vie d'Abraham. Et nous avons vu la dernière fois que Paul commence par cette question importante et un exemple pour nous. Il pose la question suivante, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Et il montre que dans toutes les Écritures, comment l'Évangile de Jésus-Christ est en accord avec la vie d'Abraham. Abraham n'a aucune raison de se glorifier en lui-même. Il n'a aucune raison en lui-même de se glorifier. Il n'a aucune raison. Dans Genèse 15, verset 6, Abraham nous dit qu'Abraham a été justifié par la foi, et pas seulement cela, mais qu'Abraham a été justifié par la foi sans les œuvres. Et pas seulement cela, Abraham a été justifié avant d'être circoncis. Dieu a justifié un homme incirconcis. Cet homme que les Juifs considèrent comme étant leur père spirituel. Abraham a été justifié avant d'être circoncis. Mais les Juifs vont répondre, « Oui, mais qu'en est-il de la loi ?»« Paul, tu ne pourras jamais nous enlever la loi. » « La loi est essentielle, disent-ils, pour notre acceptation devant Dieu. Elle est essentielle pour notre identité. Nous sommes les enfants d'Abraham, nous avons la loi. » C'est comme si Paul répondait, « Mais je croyais que nous étions en train de parler d'Abraham. Est-ce que Abraham avait la loi ?» Bien sûr que non. Abraham n'avait pas la loi de Moïse. Mais une raison pour la mauvaise compréhension de la part des Juifs, c'est que certains de leurs livres, qu'on appelle aujourd'hui des livres apocryphes, affirment qu'Abraham avait parfaitement gardé la loi. Ce qui, bien sûr, contredit le message de la parole de Dieu. Et c'est une remarque importante à souligner que lorsqu'on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, ce qui est ajouté devient toujours la référence dans notre vie. Si on ajoute le livre des Mormons à la parole de Dieu, c'est le livre des Mormons qui devient la référence. Si on ajoute à la Bible les traditions, ce sont les traditions qui vont nous diriger dans notre façon de lire la Bible. On ne peut rien rajouter à la parole de Dieu. Dieu nous a donné une parole qui est complète et qui est toute suffisante. Paul dit, que dit la Bible au sujet d'Abraham? Et ce passage, nous allons le diviser en deux parties. Tout d'abord, que la promesse qui a été faite ne vient pas par la loi, et ensuite, la promesse vient par la foi. Mais avant de voir ces deux parties, que veut dire Paul quand il parle de la promesse? Bien entendu, il fait allusion à cette promesse que Dieu a faite à Abraham. J'ai cité tout à l'heure Genèse 15, mais Genèse 15, verset 7, l'Éternel dit ceci, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Puis nous avons lu ce passage tout à l'heure en Genèse 22, où Dieu parle après que Abraham est monté sur le mont Morija et que un bélier a pris la place d'Isaac. L'Éternel dit ceci, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et ici, Paul, au verset 13, souligne que ce qui est promis à Abraham, c'est l'héritage du monde. Ce n'est pas seulement la terre de Canaan, c'est l'héritage du monde. Et d'ailleurs, quand on lit d'autres passages, Hébreux 11 par exemple, on lit qu'Abraham a vécu sous des tentes, parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Plus tard, Dieu va promettre par la bouche d'Ésaïe, Ésaïe 65, verset 17, « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Le Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu 5, verset 5, parlant des croyants, dit « Heureux les débonnaires », c'est-à-dire ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et en 1 Pierre 3, verset 13, Pierre écrit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et la vision de Jean en Apocalypse 21, verset 1, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » La promesse concerne le monde entier, concerne la terre. Tous les enfants d'Abraham hériteront la nouvelle terre, les nouveaux cieux, à cause de l'œuvre de la postérité d'Abraham, à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, toutes les nations seront bénies en ta postérité. La première chose, donc, c'est que cette promesse ne vient pas par la loi. Et l'histoire, dit Paul, montre que cette promesse vient par grâce. Verset 13, il parle de l'héritage du monde qui a été promis à Abraham et à sa postérité. Abraham s'est agrippé à cette promesse. Dieu l'a justifié. Paul souligne, comme Paul le souligne en Galates, la postérité dans laquelle le monde va trouver le salut n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Paul précise, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Et il continue au verset 14, car si les héritiers le sont par la loi, ce serait la catastrophe. Parce qu'Abraham est né bien avant la loi. Il n'a rien connu de la loi de Moïse. Si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. La promesse est annulée. Paul, de manière très simple, est en train de dire, voilà, Dieu a fait sa promesse à Abraham par grâce. Abraham ne mérite rien. Il n'a pas dit à Abraham, Abraham, voilà ma promesse, si tu gardes la loi de Moïse. Non, Abraham n'a pas connu la loi de Moïse. Abraham a été justifié non par la circoncision, nous l'avons vu, ni par son obéissance à la loi. Non, il a été justifié avant sa circoncision. Et il a été justifié par la foi dans cette promesse d'une postérité, la foi en Jésus-Christ. Par la foi dans cette postérité que Dieu lui a promise bien avant de donner la loi. On peut imaginer un vent de panique chez les Juifs en entendant cela. Ceux qui considéraient tout ce qu'ils considéraient comme étant essentiel à leur justification devant Dieu a été essoufflé par l'Évangile. C'est difficile à accepter, c'est encore difficile à accepter pour beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'il repose sur le fait d'être baptisé ou d'être membre d'une église ou parce qu'ils ont fait de leur mieux dans leur vie. Tout ce qui semble être solide est balayé par l'Évangile. C'est pour ça que Paul prend son temps pour expliquer ces choses. Abraham a été justifié par grâce, par le moyen de la foi. Et continue au verset 15. La loi produit la colère. Nos efforts pour obéir en vue d'être sauvés produisent la colère. Et Paul dit, mais c'est ce que nous avons vu au début de cette lettre. À partir du verset 18 au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, verset 20. Que ce soit des personnes d'origine juive ou des personnes d'origine grecque, non juive. Tous ceux qui essayent de gagner le chemin vers le ciel par la loi, par les œuvres, vont trouver porte close. Parce que personne ne peut obéir à la loi de Dieu. Nous sommes tous condamnés, c'est ce que la conclusion de Paul au verset 20. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi produit la colère. Et c'est une chose terrible d'imaginer ce que ce sera devant le trône de Dieu au jour du jugement dernier, de ceux qui s'approchent devant lui pensant qu'ils ont fait suffisamment de bien selon leurs yeux dans leur vie et de découvrir qu'en réalité ils se sont trompés, ils sont allés dans la mauvaise direction. La promesse ne vient pas par la loi. C'est impossible. Mais la promesse vient par la foi. Deuxième point. C'est ce que Paul dit à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. La foi, c'est ma bouche qui crie pour être remplies. Ce sont mes mains vides qui demandent à être remplies. Je n'apporte rien. Je n'apporte rien. Je ne regarde que ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et je demande ce que je ne mérite pas, le pardon. La foi, c'est venir les mains vides. La loi exige l'obéissance. Le manquement à la loi produit la colère. Mais la foi regarde à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Si on regarde à sa propre vie, ce serait de la folie de croire que nous avons fait ce qu'il faut pour être acceptables aux yeux de Dieu. Mais Dieu nous dit, voilà, la promesse, c'est d'être en Jésus-Christ. En Christ, je donne tout. En Christ, je garantis le salut à tous ceux qui viennent à lui par la foi. Je ne sais pas si vous avez eu dans le courrier, de temps en temps, ça m'arrive, d'avoir une publicité qui me dit, voilà, un chèque de plusieurs millions d'euros vous attend. Quand on lit ça, on se dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et puis on lit ce qui est écrit en caractère plus petit. Si vous faites ceci, si ceci ou cela est confirmé, si telle est votre situation, etc., etc. Il y a toutes sortes de petites choses. Ce serait tellement différent, bien entendu, de recevoir un courrier qui nous disait, voilà, 10 millions d'euros viennent d'être crédités sur votre compte. Vous pouvez aller au distributeur et vous servir. Grosse différence, n'est-ce pas? Mais voilà ce que fait l'Évangile. L'Évangile ne nous dit pas, voilà la promesse, mais il y a telle condition, si ceci, cela, c'est là, si vous faites ceci, si vous faites cela. Non. L'Évangile nous dit, nous avons tout. Nous avons tout en Christ. Nous avons absolument tout en Christ. C'est sur notre compte. Paul nous rappelle qu'Abraham a été justifié par grâce avant la circoncision et avant la loi. Abraham était un païen en réalité, mais Dieu lui est apparu. Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné cette promesse et Abraham a cru. Abraham a cru cette promesse, Dieu l'a justifié. La justification est par la foi. Afin que la promesse repose sur la grâce et qu'elle soit garantie à tous ceux qui partagent la même foi qu'Abraham, qu'ils soient juifs ou non. Les enfants d'Abraham ne le sont pas par la circoncision, ils ne le sont pas par les tentatives d'obéir à la loi de Moïse. Non, les enfants d'Abraham le sont par la foi en Jésus-Christ. Ils partagent la même foi que leur père. Et Paul nous dit au verset 16 et 17, « Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Dieu donne la vie à ce qui est mort. C'était le cas pour Abraham et pour Sarah. Le corps de Sarah était mort. Le corps d'Abraham était mort. Ils étaient avancés en âge, nous dit la parole de Dieu, incapables naturellement d'avoir des enfants. Mais Dieu donna la vie. Dieu a appelé ce qui n'était pas. Il leur a donné Isaac. Le petit Isaac qui annonçait le grand Isaac. Comme nous l'avons lu tout à l'heure en Genèse 22, le petit Isaac est monté avec son père sur la montagne dans le pays de Morija, mais il a été épargné. Un bélier a pris sa place. Le grand Isaac est allé monter sur la montagne de Golgotha, dans le même endroit. Le père a dit, c'est toi qui es l'agneau, c'est toi qui es le sacrifice. Isaac a été épargné, mais le grand Isaac, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, n'a pas été épargné sur le mont du Calvaire. Il a été mis à mort afin de nous garantir tout ce dont nous avons besoin. non seulement pour le salut, mais pour la vie. C'est ce que Paul dira plus tard en Romains chapitre 8, versets 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est la garantie de la promesse. Cette promesse qui ne vient pas par la loi, mais qui vient par la foi. Qui vient par la foi dans la postérité d'Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre cela, que Dieu nous aide à ne pas nous reposer sur nous-mêmes, sur quoi que ce soit, sur aucune œuvre, aucune chose en nous-mêmes, mais qu'il nous aide à fixer nos regards sur sa grâce qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Et que nous nous réjouissions de ce salut qu'il nous a accordé en Christ. Que Dieu donc bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.